Donc Benoît Granier, je suis doctorant en sciences politiques et je travaille sur les villes durables au Japon qui reposent sur les smart grids, justement dans toutes ces logiques de prise en compte des habitants m'intéressent particulièrement. Donc j'avais une question pour M. Rompala, puisque je pense que tout le monde ici est d'accord pour dire que les innovations technologiques ne sont pas suffisantes compte tenu de l'ampleur des efforts à faire, mais je pense que pour cette même raison, les innovations purement sociales vont forcément, comme l'a dit M. Villalba, risque de ne pas être non plus suffisante. Et je sais qu'on parle souvent de récupération des logiques d'en bas, des initiatives d'en bas par le haut. Et je me demandais si justement, dans votre travail de recensement, vous n'avez pas vu l'inverse, à savoir des récupérations d'initiatives d'en haut par le bas, qui permettraient justement d'avoir à la fois la dimension technologique et sociale. Donc dans le cas de l'énergie, par exemple, pour avoir travaillé un petit peu donc, sur les smart grids, c'est quelque chose qui, si ça reste purement technocratique et par le haut, risque de ne pas être efficace. Mais à l'inverse, sans les technologies que permettent de développer ces projets-là, peut-être que les initiatives par le bas risqueraient justement de ne pas être efficaces non plus. Et qu'à l'inverse, si par le bas, on peut s'approprier les technologies qui sont impulsées par le haut, est-ce qu'on n'aurait pas justement une solution? Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer dans vos travaux ou pas? Voilà, merci.
Oui, je vais revenir, je vais reprendre l'argument foucaultien, mais peut-être plus radical ou nihiliste. Désolé, mon ancien directeur de thèse était très nihiliste. Moi, je ne l'étais pas, mais quand même, il avait des bons arguments. Face à un régime discursif, une conduite, des conduites, comment savoir que les actions spontanées ne sont pas faites, font pas du système? Alors, moi, je m'en fous qu'il la fasse ou pas, mais dans une méthode, comment tu fais pour séparer les deux? Je ne suis pas sûr, c'est pas évident. Et dire que c'est effectivement spontané. Peut-être pas, en fait. En même temps, ça renvoie à la question sur laquelle on discutait plus tôt, et en fait, je renvoie aussi à certains commentaires de Bruno. Hein. Mais pourquoi vous insistez pour vouloir changer le monde? Pourquoi est-ce qu'il faut dire que c'est pessimiste quand un petit groupe ne veut pas changer le monde et qu'il veut simplement se faire plaisir? C'est peut-être, en fait, une manière de faire de la résistance locale, discontinue, face à un régime discursif trop important.
Bonjour, Vincent Renaud de l'INSEE de Lyon, j'ai soutenu récemment ma thèse sur les écoquartiers français. Je vais juste revenir sur une dichotomie qui est revenue plusieurs fois entre les innovations techniques qui viendraient par le haut et les innovations sociales qui viendraient par le bas. Alors, je pense pour ma part que toute innovation technique est aussi une innovation sociale, dans le sens où quand on fabrique un objet, un aménagement, un habitat ou même une simple innovation marchande, on projette également son usage. Ça, c'est la sociologie de la traduction, Madeleine Akrisch, Script, qui dit que voilà, on pose des hypothèses sur l'utilisation des objets techniques qu'on produit. Donc, toute innovation technique est une subversion sociale. De la même manière, l'innovation sociale entraîne l'innovation technique. Donc, je pense que la dichotomie n'est pas entre l'innovation technique et l'innovation sociale que dans le rapport entre technique et société. À savoir, est-ce que les objets qu'on produit, les aménagements, les habitats, viennent servir nos usages, et je dis d'abord nos usages plutôt que nos aspirations, ou les desservir, voire les asservir. Alors, ça renvoie à ce que Nietzsche a étudié dans la convivialité, le rapport aux objets. Donc je pense que la problématique pour bien penser le problème, elle est plutôt dans cette dichotomie technique-société qu'entre innovation technique et innovation sociale.
Merci. Vous avez invité l'école d'architecture de Paris-Lavillette, membre de l'équipe de recherche Victorin CDE, dirigée par Jodès Ekaoui, donc... Je me sens interpellée pour réagir sur cette idée de sacralisation là, qui était présentée comme une boutade. Moi, je pense que derrière la boutade, il y a une vraie question, parce qu'on peut aussi poser la question de la sacralisation de la parole des élus et des experts, et aussi beaucoup à dire. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment se construit une légitimité avec un groupe de parole étudiant? Ou c'est plus un axe de recherche ou quelque chose à regarder comme ça, avec un peu d'ironie? Parce que je suis. On entend aussi une absence de reconnaissance de la part de l'habitant, aussi, de mépris, parce qu'on les entend évoquer quelquefois aussi comme si c'était des analphabètes. Donc je pense qu'il y a un peu toute la palette évoquée sur la parole d'habitant, qui est une vraie question en soi. Autrement, je voulais réagir à la présentation de Sarah Dansa.
C'est Sarah,
exactement. Donc, moi j'étais un peu surprise par une idée que vous avez émise, que en fait, plutôt une pratique que vous avez utilisée pour faire émerger la parole des habitants, c'était à mettre plutôt les élus de côté du mot démarrage pour qu'ils se sentent libres de parler. Et à travers la recherche justement sur l'application des habitants dans les écoquartiers qu'on a fait sur tout un ensemble d'opérations, on a plutôt constaté de manière générale l'importance du portage politique et d'autre part l'importance de l'implication de l'élu dans ces groupes de discussion au démarrage, voire tout au long du processus, dans les ateliers participatifs, comme garant justement du fait que les habitants avaient dit quelque chose et que c'était acté, c'était au moins tombé dans la parole des habitants avant d'être dans les contrats de réunion, etc. Et puis aussi, il y a toujours, on parle des habitants, souvent quand ils se lancent dans ce genre de dispositif, une certaine confiance, une critique de manque politique, etc. Et en fait, les ateliers qui réussissent à avancer, ce sont ceux où, après une espèce de mise à l'épreuve, on va dire, de l'élu dans sa capacité de laisser vivre cette parole d'habitants, il y a un climat de confiance qui s'installe. Donc, j'ai vu ça notamment chez les acteurs jordaniens, donc c'est la présence des élus était extrêmement importante. Voilà, j'ai trouvé Léa et Chat. Oui, sinon voilà, j'ai trouvé très intéressant dans votre démarche le fait de partir de cette idée qu'on entend souvent dans le monde professionnel des élus, faire parler les habitants, bon, oui, mais il n'y en a pas, etc. Et là, je trouve que vous pouvez partir là pour vous dire, bon, ben, effectivement, je ne sais pas, c'est plus ou autre. Qu'est-ce qu'on peut se trouver comme idée pour rencontrer les gens, vous avez dans les lieux de travail, partir de ça comme un stimulant, en fait, pour aller faire d'autres personnes, pour essayer les habitants, qu'on a aussi fait, à travers des contrats, de faire des
choses. Si personne d'autre a une question à poser, je vais en poser deux. La première, c'est déjà revenir sur la notion d'acceptabilité sociale. Peut-être que pour resserrer un petit peu, il me semble que ce qui est en jeu là, c'est justement tous les blocages en termes de demandes aux habitants, d'aspirations, etc. On arrive à des blocages tels qu'ils ont été évoqués sur les places de stationnement, etc. Et donc, l'hypothèse de l'acceptabilité sociale, c'est de contourner ces blocages en s'appuyant sur des modes de fonctionnement acquis par les individus, mais en détournant ces modes de fonctionnement acquis de leurs objectifs initiaux pour les faire rentrer dans les objectifs louables du développement durable. Donc de contourner finalement de manière subreptice finalement le comportement des individus. Il me semble qu'une telle volonté, qui est portée par le paternalisme libertaire ou cette notion d'acceptabilité, quand même change la donne. C'est-à-dire qu'on veut agir sur les consciences indépendamment finalement de ces consciences mêmes. Et la deuxième question, donc ça c'était plutôt par rapport à Sarah, par rapport aux aspirations. Et là, pour Yannick, c'était plutôt la question vis-à-vis de l'idéal type. Quand on prend l'idéal type chez Weber, c'est la définition même de cet idéal type qui porte le changement en lui-même. Alors que là, dans ce que tu présentes différentes facettes de cet idéal type, donc qui est censé faire unité d'une certaine manière, a priori, mais tu apportes des conditions extérieures de convergence. Or, si on avait suivi une logique weberienne, justement, ça serait plutôt la définition même de l'idéal type qui produit ces convergences. Et question subsidiaire sur la notion d'alternative, c'est-à-dire, ça rejoint un petit peu les trois présentations, c'est quelle est la place de l'alternative et quel est le rôle de l'alternative, quel rôle joue l'alternative, cette question de l'alternative dans ce que vous avez dit.
La question, c'est par où je commence, comment je suis à peu près d'accord avec toutes les remarques, je fais trop de choses. Je vais partir de la fin pour remonter progressivement. Comme je l'avais dit, je fais une petite adaptation de l'idéal type weberien. La démarche idéal type weberienne, elle est plutôt sur de l'histoire passée. Moi, j'en fais plutôt un usage prospectif, donc je la tords un peu pour un usage qui est plus orienté vers le futur que vers le passé. Donc, lui, ce que fait Weber, c'est plutôt effectivement une démarche de sociologie historique. Moi, c'est plutôt un exercice de un peu à la mec, quoi, enfin de théorie sociale projective. C'est plutôt dans cet esprit-là que je construis ma démarche. Donc, autant Weber est plutôt dans la sociologie historique, autant moi, c'est plutôt notre forme que j'essaie de construire. Donc, je vais monter en avant au fur et à mesure. C'est pas moi, enfin, c'est la distinction entre innovation technique et sociale, c'est pas tellement moi qui l'a fait que les théories que j'ai mentionnées. Moi, je suis tout à fait d'accord. Donc, effectivement, il y a des formes d'innovation technique qui sont aussi des innovations sociales. Je m'intéresse beaucoup, par exemple, au Fab Lab, au Hackerspace, qui sont effectivement à la fois dans le technique et le social, ou ce que font les parties pirates, qui essaient de connecter aussi à la fois l'innovation technique et l'innovation sociale. Donc, l'interprétation que vous avez faite, en fait, c'est surtout l'interprétation du courant transition management qui effectivement considère qu'il y a une forme de séparation entre l'innovation technique et sociale. Et eux, ce qu'ils envisagent surtout, c'est l'innovation technique, et c'est les institutions qui devraient soutenir ces innovations techniques. Donc, ce qui permet de rebondir sur la remarque précédente, effectivement, alors j'ai du mal à en trouver, et la seule que j'avais comme ça à goût pour moi, c'est effectivement plutôt celle des Fab Labs, qui est plutôt une émanation du. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que les Fab Labs? Oui, non. Donc, ce qu'on appelle les Fab Labs, en fait, c'est la contraction de Fabrication Laboratories ou Fabulous Laboratories. En fait, c'est une initiative qu'on a un monsieur qui s'appelle Neil Gershenfeld, qui est un prof au MIT. Et lui, son idée de départ, au départ, c'est un cours, en fait. Il dit je vais permettre à mes étudiants de fabriquer ce qu'ils veulent. Et donc, de quoi j'ai besoin pour permettre à mon collectif de fabriquer ce qu'il veut. Donc, effectivement, ils ont commencé à cogiter, puis à rassembler un certain nombre de machines, et ils se sont dit, le projet qui, au départ, pouvait être réservé aux étudiants, je peux le généraliser. Et après tout, pourquoi je ne ferais pas des espèces d'ateliers que je pourrais répartir en société, où chacun pourrait arriver, emprunter des machines, et puis construire ce dont ils ont envie. Donc, d'où la connexion avec les imprimantes 3D. Et à bout de pourpoint, c'est le seul exemple que je vois où effectivement l'initiative de départ elle est plutôt universitaire et encore pas tellement institutionnelle. Et effectivement, elle se diffuse, elle est reprise typiquement dans les hackerspace qui en font un usage parfois un peu plus subversif, même si certains en font un usage aussi un peu commercial. Donc là, c'est le seul que je vois. Enfin, encore qu'après, bon, certains projets peuvent reprendre des AMAP ou des. On avait discuté aussi tout à l'heure de la culture sur les toits, qui effectivement, dans certains cas, est soutenue par certaines municipalités. Donc, il peut y avoir des formes de récupération dans des groupes communautaires de ce type de projet, mais qui n'est pas spécialement, d'origine institutionnelle. Sur la remarque de Stéphane, c'est une très bonne question, parce que moi, ce qui me perturbe aussi parfois, c'est que dans les expérimentations que j'ai repérées, il y a petite tendance à reproduire effectivement cette conduite des conduites à la Foucault avec effectivement il y a parfois le côté moralisant qui ressurgit avec cette espèce de volonté effectivement d'inculquer les bonnes pratiques ou les bonnes manières de faire à d'autres groupes donc effectivement la séparation elle est très ténue et on est effectivement dans une parfois je ne sais pas parce qu'il y a du côté obscur de la force, mais enfin, il y a une tendance à reproduire effectivement ce dont justement ils étaient censés s'écarter. Les remarques de Bono sont tout à fait justes aussi. Après, effectivement, ça dépend si on les considère d'un côté optimiste ou pessimiste, parce que, alors pour refaire le lien aussi avec Max Weber, après tout, si le capitalisme a réussi à s'installer, enfin, c'est aussi qu'il y a eu. Des gens qui ont réussi à faire tenir le truc. Donc pourquoi, si on est à nouveau optimiste, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une capacité à construire une éthique ou des contre-conduites, pour parler comme Foucault, et qui tiennent aussi. Alors tu me diras, effectivement, il faut déconstruire des inerties qui sont quand même déjà largement présentes, mais je reprends tes trois points là. Divergence stratégique, après tout, ces gens-là discutent entre eux, donc il n'est pas dit qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur une proposition commune et à construire une forme de consensus et à se rassembler dans une dynamique commune sur la reproductibilité. Effectivement, aussi, après tout, le capitalisme, c'est aussi construit des formes de reproductibilité. Donc pourquoi d'autres initiatives Donc ça, tu me dirais, ils n'ont pas les mêmes ressources, les mêmes avantages, les mêmes réseaux, enfin, ça se pose effectivement.
Il semble qu'il manquerait peut-être une petite sociologie de ces groupes, quand même, parce que.
Oui, c'est bien.
C'est comme si on était dans une espèce d'irénisme où tout le monde aurait le même capital et les mêmes ressources.
Je suis entièrement d'accord. Enfin, moi, et c'était, comme je l'ai dit, hein, mon ambition, ce n'était pas de faire une sociologie de chaque cas, c'était de construire une espèce. Oui, oui.
Ça a été fait sur les transitions de tonnes et les décroissants dans la thèse de Luxemal, qui se travaille dans
globalité.
Au niveau méthodologique, pour les réussir à les comparer.
C'est tout l'intérêt de l'exercice. Et prendre chaque cas par chaque cas, effectivement, on y passe un temps fou. Et finalement, moi, c'est toujours ce qui m'embête, c'est que effectivement, les études de cas sont très intéressantes. Le problème, c'est qu'on est à chaque fois le nez sur le guidon et sur l'étude de cas. Et on loupe ce qu'on pourrait appeler la big picture, quoi, le panorama d'ensemble. Et on voit, enfin, à être collé sur chaque étude de cas, on se pose pas la question, et c'est ce que j'essaie de faire, de l'articulation de tout ça. Est-ce que, évidemment, il n'y a pas des formes de convergence, d'articulation qui sont possibles? Donc peut-être la frustration que vous sentez est légitime, et je la ressens aussi, hein, à certains égards, mais... à nouveau, c'est pas ce que j'ai essayé de faire, hein, dans un autre type d'exercice. Et sur les temporalités, oui, je suis effectivement d'accord. Hein, entre la masse d'énergie qui serait nécessaire pour arriver à rattraper la masse de problèmes. Je vais revenir aussi sur tes premières remarques, qui n'étaient peut-être pas des questions, peut-être plus des manières de rentrer en matière. Sur l'aspect que tu qualifies de mythique, je dirais que c'est le versant aussi de beaucoup de ces discours-là qui jouent fréquemment dans un registre performatif. Et ce que tu qualifies de mythique, en fait, c'est une forme d'interprétation de discours qui espèrent entraîner d'autres énergies et mobiliser donc, le versant performatif. Et c'est aussi ce qui est troublant. On le retrouve à la fois dans le développement durable que j'ai étudié, et puis dans ces initiatives qui essaient aussi d'avoir des formes d'exemplarité, des effets d'entraînement à leur propre niveau. Et sur la deuxième remarque que tu as faite, sur les questions de durabilité, les expérimentations aussi que je repère ne se posent pas non plus forcément cette question-là. Ce qui les préoccupe, c'est de faire quelque chose et d'en escompter un effet, et pas forcément se positionner par rapport au développement durable ou au développement social, et se situer dans ce... Donc c'est je le fais parce que je crois que c'est positif et qu'il y a des effets qui sont positifs pour la collectivité. Après, est-ce que je recueille ça en termes de durabilité, de développement durable? Pas forcément, et pas systématiquement. Donc voilà... Est-ce que j'ai répondu?
Oui.
Je vais recentrer sur deux mots. On a fini le temps, je crois. Je vais répondre principalement maintenant à des questions et par la même ficelle, entre guillemets. Enfin, j'ai l'impression que ce qu'il y a de commun, c'est un peu cette place du tiers et qui est certainement le moins explicite de tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Par rapport aux élus et à la concertation proprement écoquartier, nous, on ne s'est jamais positionné dans un processus de concertation pour un écoquartier. C'est-à-dire que sur les deux projets, on arrive très très en amont, comme acteur tiers, on n'a pas de lien marchand avec la municipalité, et notre démarche est pas gratuite, mais se positionne comme un apport supplémentaire qui n'a pas une utilité pour être à l'écoquartier directement. On a choisi de faire ce qu'on a appelé une greffe sur des projets locaux, et ça a été ces deux projets ESA qui étaient élus, pour assurer une continuité à ce que nous, on menait sur le territoire. C'est-à-dire qu'on était, nous, dans une expérience et qu'on ne voulait pas initier quelque chose, on n'était pas sûr qu'il y ait une suite donnée. Donc la suite donnée a été après la concertation, les différentes concertations, propre territoire, par les techniciens, par les techniciens. Et ce positionnement un peu, nous, en acteurs tiers, en supplément qualitatif et tout, impliquait justement un investissement des élus qui était différent. J'ai dit que c'était particulièrement intéressant pour les aspirations, justement parce que dans une concertation avec un objet bien précis, comme la construction d'un écoquartier, avec la présence des élus, le type à la fois de propos qui vont être mobilisés, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas grand-chose à promettre aux habitants et on leur a dit très vite. C'est-à-dire que le pouvoir n'était pas dans nos mains, on venait là pour construire avec une parole et tout, mais on n'était pas élus, on n'était pas... les élus ne voulaient pas non plus qu'on leur dresse une commande sur la qualité de vie. Donc c'était un rapport très spécifique qui impliquait aussi que ça soit un temps pour eux de construction aussi de la parole dans ce groupe-là, d'élaboration entre eux et ce qu'ils ont élaboré. Ils en étaient quand même très fiers de le présenter après aux élus, justement parce qu'ils l'avaient construit ensemble, que c'était visuel, que voilà. Et pour nous, ça impliquait justement de travailler qu'à la fin sur une question de co-responsabilité, une question de passer le relais aux élus, une question de présenter les résultats de leurs ateliers à leurs élus. Enfin, c'était en logique pour ça. Quoi. Après, il est sûr que si on avait directement fait une présentation pour un éco-quartier, la place des élus et le portage, mais on voit que c'est un modèle qui, à la fois, pour nous, en tout cas, notre conclusion en tant que chercheurs, c'était assez positif d'être seul avec les habitants. Eux, ils pouvaient être parfois très décontenancés. Enfin, je me rappelle justement à Leçon Noël au quartier Ouest, la première réflexion, c'est pourquoi il n'y a pas un élu qui vient nous dire bonjour, quoi. En plus, c'est culturellement un peu bizarre de se faire accueillir par des étrangers, des Parisiens, et pas un élu de la prison, quoi. Donc il y avait un technicien avec nous, mais on sentait que ça allait décontenancer. Et donc, voilà, la place des élus était liée aussi à notre place de tiers. Et c'est un lien pour moi avec la question qui je sens titille souvent sur la même chose. Donc c'est un peu, enfin moi ça résonne avec un propos que déjà tenait pendant que je parlais au camp, il parlait des aspirations, c'était oh là là, je fais une sociologie des aspirations, et le gros danger c'est de l'utiliser cette sociologie des aspirations pour manipuler les aspirations. Il en était super conscient. Il s'est fait placarder largement parce qu'il a travaillé pour la planification urbaine, à un moment où le milieu universitaire à cette époque-là était 99,9% marxiste, anti-pouvoir et tout, et ça a été une tension très très forte. La réponse n'est peut-être que pragmatique en fait, c'est que soit on y va, soit on n'y va pas. Lui, ce qui pointe un peu comme risque, je pense qu'il a quand même un vrai souci à l'époque des classes ouvrières et tout, enfin, il est toujours soit trop marxiste, soit pas assez, il a passé sa vie comme ça. Il dit que les politiques et la planification existent aujourd'hui et qu'une politique qui met en place, quelle que soit la démarche, sans prise en compte des aspirations, sera de toute façon ni efficace pour le gouvernement ni efficace pour les gens. C'est-à-dire que on va leur mettre des contraintes qui ne répondent à aucune de leurs demandes, qui n'améliorent pas leur qualité, donc il y a une sorte de perte des deux côtés. Donc pour lui, c'est plus une façon d'encourager que de prouver justement l'articulation qu'aujourd'hui on dit souvent innovation technique et innovation sociale, que juste ça ne peut pas se passer ensemble, quoi. Qu'il ne peut pas avoir une politique, quelle que soit, même un exemple de politique sur la façon de s'alimenter, elle ne peut pas exister sans prise en compte de qu'est-ce que c'est l'aspiration liée à la façon de s'alimenter, pourquoi les gens vont acheter tel produit plutôt que tel produit. Quoi. Donc, je pense qu'il y a un. J'ai même pas envie de dire qu'il y a un risque, en fait, pour être honnête, parce que les gens aussi, par rapport à le rapport qu'on peut avoir avec la parole, c'est tout, les gens sont aussi en demande d'un modèle, en fait. Enfin, je suis assez convaincue de ça, ils sont toujours à la recherche d'une explication, ils sont à la recherche d'un modèle et tout. Donc quand un pouvoir, quel que soit, promeut un modèle, de toute manière, ils vont en adopter l'un ou l'autre. Enfin, je pense pas non plus qu'on puisse penser l'habitant comme une conscience indépendante et que toute manipulation de cette conscience serait à ses dépens. Je pense que l'humain a du mal à pas coller à une aspiration ou à pas être en demande de finalité, justement, quoi. Pour moi, ce qui joue dans cette relation entre les pouvoirs et monsieur là, tout le monde, entre guillemets, sur ces questions d'aspiration, de manipulation des consciences et tout, c'est justement la place du chercheur. Je pense que aujourd'hui, comme pour un cheval de l'eau, c'est toujours très compliqué d'être impliqué dans des démarches, très compliqué d'être parfois en recherche-action et tout. Et en même temps, j'ai l'impression que cet acteur tiers, c'est là où il fait bouger les lignes, quoi. Le type de parole quand même suscité va un peu déconnecter la simple application des techniciens et des politiques sur une ligne qui est déjà tracée. Elle donne aussi... plus avec des chercheurs qui travaillent à la Cato, mais la capacitation pendant ces processus. Elle permet aussi peut-être aux habitants de s'approprier une façon de prendre la parole, de comprendre aussi, on se rend compte que la co-responsabilité c'est inexistant, les gens ne comprennent juste pas quelle est la responsabilité de chacun, donc ils sont toujours dans un lien très clientéliste avec les élus, et du coup ils échouent aussi à apporter vraiment leurs revendications, c'est-à-dire ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, ils ne savent pas ce que les élus peuvent faire, ils ne savent pas ce que les entreprises peuvent faire, et que c'est en travaillant un petit peu dans cette médiation pour moi qu'on peut voilà, sortir de la question de manipulation des consciences et peut-être au moins de capacité chacun et de remettre chacun sa place. Et je pense que le chercheur a sa